où il y a une représentation qu'on peut facilement modéliser presque.
Alors la question est de savoir si l'art est toujours de l'ordre de la représentation. Parce que ça, c'est aussi une chose qui traîne dans l'esprit.
Oui, mais la représentation est facile, plus accessible. Quand il n'y a pas de représentation, c'est plus difficile d'accès.
Peut-être oui, et pourtant, des entités abstraites, on en est entouré en permanence, que ce soit sonore, que ce soit une parole, etc. Donc, il ne faut pas non plus se bloquer sur la question de la représentation, et même si ça fait partie du champ artistique, bien entendu. Donc, ce qui est... Encore une fois, si on est en but comme ça par rapport à la question de la représentation, c'est parce que dans notre tête et dans notre esprit, on se bloque sur une définition de la représentation qu'on ne veut plus augmenter ou faire éclater. Et c'est pas très dynamique. C'est risqué de s'endormir sur un certain nombre de choses. Alors c'est confortable, hein, on le sait, mais moi je suis pas dans le confort. Moi, je suis dans l'envie de remuer les choses, parce que on est des êtres vivants, on est des êtres sensibles, on est des êtres pensants. Souvent, on me dit, mais l'art, alors c'est quoi ? C'est de la sensibilité ou c'est de la réflexion et de la pensée ? Mais c'est les deux, bien entendu. Les deux vont pleinement en accord. Donc voilà, en fait, c'est un champ de possibles absolument et merveilleux, parce que ça ouvre à l'imaginaire, ça ouvre à la discussion, à l'échange, justement. Et donc, voilà, je crois que ce qui est fondamental, c'est de se laisser emporter et d'avoir une attitude aussi d'esprit critique. C'est très important, l'esprit. Moi, je me souviens, quand j'étais prof de français dans les petites classes, je disais aux élèves, moi, ce que je veux, c'est éveiller votre esprit critique. Je veux pas que vous soyez à absorber tout ce que je dis comme parole d'évangile. J'ai aucune vérité absolue. Et c'est pareil. Quand je monte une exposition, voilà, c'est quelque chose que je constitue d'une manière réfléchie par rapport peut-être à un thème, peut-être à une situation, etc. Je l'offre à voir après, mais je suis, qu'on vienne me contester telle chose ou telle autre, moi je suis pas contre, mais parce que justement ça va créer du dialogue. On va pas rester enfermé chacun sur notre savoir comme si on ne possédait qu'une seule et unique chose.
Finalement, la rencontre avec une œuvre réussie, c'est celle qui fait qu'on n'est plus tout à fait le même après qu'avant.
Oui, absolument, tout à fait. Oui, il faut que ça nous change.
Je te propose que nous écoutions un morceau de musique avec lequel tu es venu. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais que tu as choisi en tout cas. Donc Philippe Piguet, tu nous as choisi Eric Satie avec le véritable prélude Flasque. Pour un chien, c'est le sous-titre.
Voilà un compositeur qui a tout bouleversé.
Et justement, un petit mot peut-être sur ce choix avant qu'on l'écoute. Peut-être une clé ou deux pour pouvoir écouter sereinement ce morceau, parce qu'il évoque chez toi quelque chose quand même.
Il me permet d'être tout le temps dans la surprise. Moi, je veux être tout le temps surpris et émerveillé en même temps, parce que ça, c'est très important.
Eh ben, on écoute justement Eric Satie, véritable prélude Flasque pour un chien.
Thank you.
Eric Satie, donc une pièce qui s'appelle Véritable Prélude de Flasque pour un chien. C'est une pièce de 1912. Voilà,
oui,
j'ai l'information sous les yeux. Et comme quoi, ça aussi, ça reste contemporain, en fait,
mais
de 1912.
Complètement contemporain, ce qu'on vient d'écouter, c'est incroyable.
Eh ben merci en tout cas Philippe Piguet de nous avoir fait découvrir cet extrait. Il est l'heure de retrouver notre ami Antoine, vous savez, celui qui a un pied dans le présent, un pied dans le futur, qui va nous apporter son regard sur la question de l'art.
Salut à tous, de retour dans la matinale après un mois de mai chargé en pont et jours fériés. Fallait bien profiter de nos acquis qui semblent assez fragiles en ce moment, surtout avec tous les ouaves qui nous gouvernent. Enfin bref, trêve de digression. Ce matin, on parle de la Biennale d'Evreux dans l'émission. Et quand JC m'a annoncé le sujet, j'ai commencé à bégayer bien avant de savoir ce que j'allais dire. Mais finalement, je suis passé outre ce nom qui pourrait peiner à attirer les plus difficiles, et j'y ai trouvé une mine d'or. Bien évidemment, je ne vais pas paraphraser les experts en studio, cependant l'occasion est très bonne pour aborder le sujet de la culture. Parce que c'est vrai que se cultiver, c'est un acte qui pèse en termes de citoyenneté. Déjà, la culture, selon moi, c'est un bon moyen pour comprendre les choses. Que ce soit des époques ou des points de vue, l'art, ça reste un entraînement agréable ou pas pour découvrir, s'intéresser et approfondir les sujets. Ne pas s'arrêter à l'entrée de quelque chose et pousser la curiosité plutôt que de rester sur des préjugés. Et quand je parle d'entraînement, je dis ça car ces facultés de curiosité, elles sont essentielles dans le monde de tous les jours. Combien de conflits pourraient-ils être évités si nous prenions le temps de s'interroger sur les points de vue des autres? Si on cherchait à se comprendre plutôt que de redescendre à nos instincts primaires à la première occasion? Tenez, en ce moment par exemple, il y a une performance artistique qui se déroule autour du plus vieux pont de Paris, le pont Neuf. Il s'agit d'une performance temporaire similaire à celle qui s'était déroulée en 2020 avec l'Arc de Triomphe. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'histoire que cela raconte. Les prises de position engendrées, d'un côté ceux qui dénoncent l'inutile, le gaspillage et la dégradation, selon leur point de vue, et de l'autre ceux que cela fascine. Évidemment, on peut jouer les aigris et dénigrer le tout sans chercher à comprendre, cependant l'art c'est plus que ça. C'est censé véhiculer des émotions, créer des réactions, des j'aime pas, des j'aime parce que, des débats, et c'est là tout l'intérêt. Partager sur les sensibilités de chacun. Et finalement, on en arrive au point final. Oui, cette chute qui est téléphonée, tant la conclusion me brûle les lèvres depuis le début. Si l'art et la culture sont aussi importants, c'est parce que ce sont les bases de nos esprits critiques. Ce que je veux dire, c'est que ça nous apporte du recul. Ça nous apprend à échanger, à comprendre les faits, à chercher la vérité dans l'histoire. Et finalement, quand on comprend aussi pourquoi le trio art, culture, éducation est le plus effacé par les parties qui vont le plus dans le sens des riches que celui des prolos. Tu peux pas juste dire l'art c'est nul. Tiens, tu sais ce qui est nul? C'est ton avis là. Allez, bon week-end tout le monde.
Merci Antoine pour ce regard sur la question artistique. J'ai envie de te retourner finalement la réaction et le rebond. Philippe Piguet, commissaire d'exposition de la Biennale d'art contemporain d'Evreux, sur les propos développés par notre ami Antoine.
Ah ben Antoine, il a plus que raison et je le rejoins pleinement quand il dit que finalement on est bourré de préjugés et que ce qui est important est la culture sert à ça, c'est de mettre en question nos préjugés, parce que sinon on n'avance pas du tout, on va vieillir mal, quoi, en quelque sorte. Donc ça me paraît très important. Il fait allusion à une intervention du célèbre JR sur le pont Neuf, où était intervenu il y a 40 ans un artiste contemporain qui s'appelle Christo. En impactant le pont Neuf. Ce qui est intéressant, c'est que entre l'un et l'autre, ce sont deux manières de traiter en quelque sorte le support du pont Neuf de manière très différente. Christo était beaucoup plus dans une question de l'histoire de l'art, puisque le pont Neuf relie le palais du Louvre à l'école des Beaux-Arts, et il a insisté beaucoup là-dessus. JR, lui, il est plus dans le social. JR est quelqu'un qui fait des interventions très très intéressantes, mettant en question justement la relation à l'autre. Donc voilà, donc moi cette chronique, elle m'a complètement séduite parce que elle a pris le relais de ce que nous disions précédemment.
Exactement. C'est rigolo, tu nommais JR. Oui. JR, on peut le classer dans ce qu'on appellerait le street art.
Non.
Ou l'art contemporain. Non, toi, c'est vraiment dans l'art contemporain. Mais, je trouve qu'il y a vraiment une passerelle entre les deux.
Mais le street art, c'est appartient à l'art contemporain. On va pas.
Ah, c'est dedans, oui.
Ah, c'est complètement dedans. L'art contemporain, c'est très générique et très vaste. Hein. C'est immense, l'art contemporain. On va y mettre aussi bien la musique, je sais plus lesquelles. Mais toutes les musiques qu'on peut imaginer, toutes les littératures qu'on peut... C'est de l'art contemporain, tout ça. Non, J.R. fait partie complètement. Il fait partie de quelque chose qu'on a appelé chez nous un peu sottement, parce qu'on n'arrive pas à se dégager du fait qu'on adore les anglicismes, street art. Mais pourquoi pas appeler tout simplement l'art dans la rue ?
Oui, tout à
c'est
fait.
C'est tout, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas cette formule. Moi, ça m'énerve. Street art, fast-food, etc. Et j'aime bien la langue française. Moi, j'ai été prof de lettres. Alors, évidemment, j'aime ça.
Ah bah oui, forcément. Là, on s'adresse aux profs de lettres.
Eh oui.
Je te propose que nous revenions sur la biennale hébroïcienne, la biennale d'art contemporain, dont toi, Philippe Piguet, tu es le commissaire d'exposition, et qu'on revienne un petit peu sur sa forme, ouais. Et puis surtout sur les artistes qui sont d'ailleurs en train d'accrocher là, non
Oui, tout à fait.
C'est ça, hein, ils sont en plein dedans là. Enfin,
on a terminé là.
Ah, presque. C'est terminé, d'accord.
Ah ouais, quasiment, mais c'est demain quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire, demain ça va démarrer à l'occasion des nuits du musée d'ailleurs.
Tout à fait.
Parce que cette opération est aussi fonctionne avec le musée d'Evreux, bien entendu.
Absolument.
Et les services culturels de manière générale, forcément.
Oui. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, puisqu'on vient de parler de l'art dans la rue, voilà, c'est une opération, la Biennale d'Evreux. Donc, moi, j'ai pris en charge cette année, parce qu'on est venu me le demander, et que ça m'intéressait de le faire, compte tenu de ce que je connais. Je connaissais Evreux, hein, la ville d'Evreux. Je me souviens d'une intervention il y a 30 ans de Kawamata, absolument extraordinaire.
Ah oui, la passerelle, effectivement.
La passerelle.
Qui avait réussi son truc parce qu'elle avait fait parler tout le monde. Hein.
Mais bien sûr.
Elle avait été contestée, adorée, détestée.
Et je pense que toutes les hébroïciennes et tous les hébroïciens ont découvert ce jour-là la belle architecture de la place où était installée cette passerelle, parce qu'on pouvait voir les façades quasiment à portée de regard, quoi. Donc voilà, ça, au matin, il a été très positif. Alors, s'agissant de cette biennale, la biennale d'Evreux, elle est en quelque sorte adossée à une double entrée. Le paysage et le patrimoine. Mais faut pas l'entendre au sens étroit du terme. Faut le prendre très généreusement. Parce que le paysage, ça peut être le paysage humain, peut être le paysage naturel, ça peut être le paysage artificiel, le paysage architectural, le paysage, c'est un mot qui vraiment englobe de manière très très large. Donc moi, quand j'ai été amené à imaginer cette biennale, il y a une phrase qui m'est venue, parce que on est historien d'art et c'est difficile de s'en détacher. Puis il y a des phrases tellement fortes qu'elles font sens, quoi. C'est une phrase de Cézanne, un autre immense artiste que tout le monde connaît. Il dit que le paysage se pense en moi et je suis sa conscience. Alors là, ça fait un peu boum, hein. Mais faut pas être affolé. Le paysage se pense en moi et je suis sa conscience. Ça veut dire que finalement, tout un chacun porte en soi une façon de paysage et de regard aussi sur comment, quand tu regardes telle chose, tu le vois à ta manière, moi je le vois à ma manière, avec chacun nos charges et peut-être même nos préjugés.
Oh, sûrement, on les laisse rarement de côté.
Même
si on veut s'en débarrasser.
Mais justement, ce qui est important, c'est d'apporter dans cette opération de la Biennale d'Evreux des éléments qui vont faire réagir. Donc, moi j'ai pensé cette opération en tenant compte du contexte, parce que la ville d'Evreux, sur le plan du patrimoine naturel ou architectural, c'est quand même une ville très très riche et très joyeuse en même temps. Combien de parcs et de jardins ? Moi je suis assez étonné. J'ai la chance de circuler beaucoup en région en France pour le travail. Evreux est vraiment bien placé. Donc il fallait trouver des réponses qui puissent être des éléments déclencheurs du regard, en quelque sorte. Donc, pour le dire, on va, si tu veux, passer comme ça en revue un peu chacun des artistes rapidement, et je vais les prendre par ordre alphabétique.
D'accord.
Ou alors, si tu veux, on les prend par lieu.
C'est vraiment toi qui décides, bon. Comme tu es le plus à l'aise.
Allez. D'accord. Alors, on va les prendre par lieu. On va les prendre par lieu. Je vais commencer par le jardin botanique. Hein, je crois qu'on l'appelle comme ça.
Tout à fait.
Magnifique espace, avec à l'intérieur des moments très, très étonnants. Alors, dans le jardin botanique, par exemple, on va trouver un artiste qui est originaire de Bordeaux, qui s'appelle Laurent Le Dinf. Et au détour d'une, au contour d'une allée, on va découvrir tout d'un coup une sculpture qui se présente sous la forme d'une stèle sur laquelle est posée une tête de chouette qui te regarde. Et l'objet lui-même est traité selon une matérialité qu'on appelle le rocaille, c'est-à-dire ce faux bois fait avec du ciment et des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est Laurent Le Dinf qui vient surprendre le piéton, je dirais, dans le parcours. Et puis, si on grimpe un peu et qu'on va du côté du jardin exotique méditerranéen qui est derrière la serre, on se balade, magnifique endroit où il y a plein d'essence, magnifique. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une œuvre, on va vers le cartel, parce que chaque œuvre a un cartel avec un code-barre si on veut en savoir plus, mais il y a un petit texte, et on voit le titre Cactus de Sibérie. Et c'est quoi ? C'est une figure qui est très festive, très ludique.
Dans les couleurs, qui vient vraiment en opposition, enfin pas en opposition, mais...
En éclat.
En éclat
solaire.
Et puis, rien à voir avec ce que peut proposer Laurent...
Rien du tout.
Laurent Le Dinf.
Deux propositions différentes. Parce que chaque fois, il faut surprendre le regard. Donc, quand j'ai pensé à Richard Di Rosa, qui est l'auteur de cette sculpture et qui est une des figures importantes d'un mouvement artistique qui s'est appelé la figuration libre, bon, voilà, c'est quelque chose un peu pop, en quelque sorte. Très, très fort, très intéressant. Donc ça, c'est pour le jardin botanique.
Très bien.
Si on se déplace dans la ville, on peut aller, par exemple, au parc Saint-Louis, qui est un endroit que les Hébroïciennes et les Hébroïciens connaissent, je suppose, mieux que moi, parce qu'ils habitent sur place, et qui est nouveau, le parc Saint-Louis. Hein.
Alors, parc Saint-Louis, c'est lequel ? C'est celui qui est près du musée, non ?
C'est celui qui est près... Non, pas près du musée. Alors, je connais à peu près la géographie de la ville, mais c'est celui qui est entre la rue Saint-Louis et l'école d'infirmières, je crois, qui est là. Il y a une grande école... Et c'est un parc nouveau, complètement nouveau, où il y a un bassin, où il y a aussi des traces archéologiques qui sont intéressantes. Et dans le bassin, les gens vont découvrir une œuvre d'un artiste s'appelle Lionel Sabaté, qui vit à Paris, mais au Marais Vernier, dans l'Eure. J'ai été attentif aussi à ça. Et il a installé une licorne. Et elle vient là, au milieu des roseaux. Elle apparaît, magnifique. Et c'est une manière de nous emporter dans le rêve, dans l'imaginaire. Puis un peu plus loin, sous un magnifique arbre, je ne sais plus quelle essence, parce que je n'ai pas mémorisé tout encore, il y a un banc, qui est un banc céramique, très étonnant, d'un couple d'artistes, dans la vie et dans l'art, qui s'appelle La Marche Ovise, et qui sont des artistes qui procèdent à toute une fabrication de sculptures fonctionnelles, la plupart du temps, dans cet esprit justement d'un temps passé qui a animé la fin du 19e et début du 20e siècle dans la possibilité en quelque sorte de faire mettre un peu à bas toutes les hiérarchies dans le monde de l'art, que ce soit pas simplement de l'investigation théorique ou imaginaire, mais que ce soit aussi pratique. Donc on peut s'asseoir sur le banc, qui est un magnifique banc céramique coloré, et on peut à ce moment-là se poser dans ce parcours que l'on a imaginé.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'on est, on se rapproche presque de l'art appliqué, presque sur cette réalisation.
Complètement, c'est ce qu'on appelle les arts décoratifs aussi. Oui. Et très précisément, c'est le mouvement Arts and Crafts qui avait été porté au début du XXe siècle par un très grand artiste qui s'appelle William Morris. Mais bon, c'est pas fondamentalement nécessaire de connaître ça. C'est bien.
On y amène quelques clés, justement.
Voilà, mais oui, parce que finalement, comme on l'a dit, hein, on est dans la transmission. C'est pas plus mal de faire savoir. La licorne, ben, elle a toute une légende. On peut la raconter aussi. Et etc., etc. On parle pas de pop art, etc. Donc, ensuite, où est-ce qu'on va aller ? On va aller du côté... Alors, je regarde ce qu'on a dit. On a déjà parlé de ça et de ça. On va passer à la médiathèque. Et dans le hall de la médiathèque, on a installé une œuvre d'un artiste qui s'appelle Michel Nattier. Alors, on peut connaître un peu cet artiste parce qu'il est aussi du département de l'Eure et il a été longtemps le directeur du musée de Louviers. Donc, c'est quelqu'un qui est artiste, mais aussi qui a eu une carrière, on va dire, institutionnelle, et il a mené pendant presque, je crois, 20 ans, une activité, un travail très, très positif à Louviers. Je l'ai d'ailleurs accompagné dans certaines expositions à l'époque. Et là, il nous offre une sculpture, parce que c'est un sculpteur sur bois. Alors, dans la pratique la plus traditionnelle.
Ben oui, c'est ça, on croirait presque une pièce de musée, du coup.
Mais on dirait presque une pièce de musée. Et en fait, ça s'appelle la porte intérieure, ça a été taillé dans la masse d'un tronc de chêne. Et c'est vraiment un très beau travail. En plus, c'est un travail qui est aussi peint, donc qui renvoie vraiment à des pratiques artisanales médiévales, comme les chapiteaux qui étaient colorés à l'époque. Hein. Donc voilà, Michel Nattier à la médiathèque, incontournable aussi, bien sûr, comme tous les autres. Ensuite, on va découvrir, en passant Square de Launay, une œuvre absolument surprenante, puisque tout d'un coup, on se promène et on voit une espèce de tortillon coloré qui se dresse.
Ça fait penser un peu aux sucettes des foires.
Mais bien sûr, c'est très simple. Alors là, hein, c'est très simple. Et on est vraiment dans une production artistique qui est vraiment empirique, direct. C'est quelqu'un qui, en dehors de ça, fait de la peinture et qui travaille directement sur le motif. Et là, comment il procède pour faire cette œuvre ? En fait, il fait un petit boudin de pâte à modeler. Et puis, quand le boudin est fait, il lui imprime une torsion, ou deux, ou trois. Et ça devient un tortillon. Et ça, ce modèle, il le fait agrandir en résine, il peint, et ça nous donne une œuvre qu'il appelle d'ailleurs République, puisqu'on est place de la République ici.
C'est pas mal, effectivement.
Donc, Damien Cabane, très très intéressant artiste aussi. Ensuite...
Bon, on file au musée.
Alors, en allant vers le musée, tout le monde connaît le site, on traverse la cour entre la cathédrale et l'ancien évêché. Très vaste place. Et qu'est-ce qu'on va trouver là ? Une œuvre de Vincent Barré. Alors là, on est dans une sculpture d'un autre ordre. Je me suis attaché à ce qu'on ait aussi, d'une certaine manière, une espèce de panel de propositions très ouvertes. Moi, je suis dans l'éclectisme. Je ne suis pas du tout dans l'idéologie univoque. Hein. Je suis dans l'ouverture le maximum. C'est une œuvre qui s'appelle Jumelles. Ce sont deux colonnes constituées de modules empilés l'un sur l'autre en... acier Corten, donc c'est des pièces très très lourdes, qui sont d'une certaine rigueur géométrique, puisqu'on est dans une forme d'art minimal, mais dont la présence dans cet espace architectural, patrimonial, absolument magnifique, joue de dialogue avec l'espace. Et Vincent Barré, qui est un artiste qui a aussi un pied à terre en Normandie.
Eh ben voilà.
Il ne faut pas oublier qu'il y a, évidemment, sur le territoire normand, et Dieu sait, il y en a beaucoup, des artistes tout à fait passionnants. Et puis, on avance vers le musée, mais avant même d'entrer dans le musée, il y a le petit cloître, qui est un petit bijou, ce cloître. Un vrai bijou, avec au centre une vasque. Une vasque dans laquelle on trouve quoi ? Une œuvre de Raphaël de Broissia. Et elle a créé une pièce qu'elle appelle ondoiement, qui est, si on la voit de loin, un bouquet de fleurs. Et en fait, quand on se rapproche, bah, on voit bien que c'est en fait des matériaux, on ne devine pas toujours immédiatement. C'est du plastique, c'est du scotch adhésif qu'on appelle le tiro, c'est des matériaux complètement contemporains. Et sur chacune des tiges, elle a fait fleurir une fleur. Et dans la vasque, finalement, voilà un bouquet artificiel qui constitue une espèce de paysage. Et ça fait écho dans son esprit aussi à certaines images qui sont dans les vitraux de la cathédrale. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Comment elle est venue d'ailleurs réaliser l'œuvre sur place.
C'était une question que je garde dans un coin juste après la dernière présentation, celle de Daniel Pontoro. Et il y a une question qui va venir avec l'espace et le lieu.
Tout à fait. Alors, effectivement, la dernière intervention, c'est à l'intérieur du musée. Alors, à l'intérieur du musée, il n'y a pas simplement le 9e artiste Daniel Pontoro, parce que lui, Daniel Pontoro, c'est de la céramique. C'est des formes, je dirais, organiques, un peu nucléaires, en forme de noyau, qui nous parlent un peu dans leur composition du cosmos. C'est de la céramique, pas possible à mettre à l'extérieur. Donc, j'ai pris le parti de l'inviter à être au musée, comme on va trouver au musée deux éléments très importants. Dans le chemin de ronde, il y a un dispositif avec, pour chaque artiste, un petit texte très rapide qui permet aux gens de savoir un peu des éléments sur l'artiste, qu'on retrouve d'ailleurs sur les codes-barres hein, quand on les prend à l'extérieur, et une petite pièce supplémentaire pour chaque artiste, une photo, un dessin, une petite sculpture, une céramique, etc. Et dans ce qu'on appelle la salle blanche, j'ai donc rassemblé les 9 artistes dans une exposition muséale. Délibérément, avec des pièces évidemment qui ne sont pas monumentales comme dans l'espace public. Et vraiment, ce qui m'a importé, c'est que tous les artistes soient traités de la même manière. Donc, on a une très belle salle avec des œuvres très différentes, mais on retrouve tous les artistes que je viens de nommer avec une autre œuvre, ce qui permet aux visiteurs de la Biennale, après avoir fait le parcours ou avant, peu importe, parce que finalement, il y a effectivement une sorte d'ordre dans le parcours, mais non, il faut aussi aller librement, hein. On n'est pas là pour jouer les autorités.
Justement, c'est l'appréhender, on ne peut plus dire ça après tout ce qu'on a dit ce matin.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça permet comme ça aux visiteurs de la Biennale d'Évreux de découvrir la ville à travers les œuvres qui sont à l'extérieur et de découvrir ce petit bijou de musée qui est le musée d'art et d'histoire de la ville d'Évreux.
Je disais, j'avais une question moi autour de cette question de l'espace, quand on investit l'espace extérieur, est-ce qu'au bout d'un moment on dit à l'artiste, bah tiens voilà, tu vas exposer, regarde dans la ville l'endroit qui te parle ou qui évoque quelque chose par rapport à ton œuvre, ou est-ce qu'on est dans la commande pure et dure parce qu'on a vu ça il y a 2 ans ou il y a 1 an en disant, bah on te commande une pièce pour ici, comment ça marche finalement, parce que il y a forcément un lien entre la pièce et le lieu.
Alors, tout à fait. Alors, ce n'est pas du tout de l'ordre de la commande. D'abord parce que là, ça impliquerait des budgets beaucoup plus conséquents, ce qui est normal. Non, c'est sur le mode suivant. Tous les artistes sont venus.